Entre nous, l'histoire du Très Carré, un balado présenté par le Moulin des Jésuites. Le patrimoine se retrouve à chaque coin de rue. Et on s'en aperçoit lorsqu'on prend le temps de regarder lentement tout autour de nous. Le patrimoine est varié, multiple, en constante évolution et particulièrement lorsqu'il est immatériel. Il est vécu au quotidien par des milliers de personnes, comme Jean lorsqu'il répare un soulier de cuir, comme Chloé et Bernard lorsqu'ils s'assurent que leurs reines sont en santé, comme Lynn et Hélène lorsqu'elles tissent des couvertures pour leur famille. Des gestes, parfois anodins, répétés et transmis depuis des générations, font vivre le patrimoine culturel. À travers ce balado, j'ai tenté de leur rendre hommage, de mettre un peu de lumière sur ces personnes, sur leurs pratiques, sur leur savoir-faire et sur leur métier, souvent méconnu. Et c'est le cas du ferblantier Roch Drouin. La mise en valeur du patrimoine architectural est au cœur de sa pratique. Il nous en parlera davantage. Mais d'abord, rejoignons la classe de Madame Karine. Je crois que ses élèves ont encore des choses à nous dire.
Moi, je m'appelle Mélise. Je travaille au Moulin des Jésuites. À main levée, est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au Moulin des Jésuites? Oui, beaucoup! Ah, c'est fun! Super!
Environ, est-ce qu'il y en a qui savent c'est où le Très Carré?
Oui. Ben, le Très Carré, c'est un peu autour de l'église.
Oui, exactement, oui!
Ben, c'est vers là-bas, là. Là, il y a le métro, là, c'est plus là-bas.
Parfait, donc un peu plus bas, c'est ça?
Ouais. Oui.
Ben, c'est proche de la... une crèmerie, là.
Mm-hmm.
Chocolat-fagerie.
Exactement, donc on va...
Mais non, mais il y a une autre crèmerie. Oui, la folle tablée.
La folle tablée, exactement, oui. Donc, ici, c'est qui? C'est où?
Nous!
Exactement, c'est votre école. En jaune, ici, c'est le moulin. Et vous voyez le carré ici? Donc, c'est ça aussi qu'on appelle le très carré, parce qu'il y a vraiment une forme de carré. Ici, on a l'église, et ici, on a quoi?
Chocolat favori.
Oui, c'est chocolat favori, oui.
Est-ce que c'est voulu que ça soit carré?
Oui, c'est voulu que ça soit carré. Donc, historiquement, le très carré, c'était une organisation des terres. Donc, en Nouvelle-France, quand les colons sont arrivés, ils ont colonisé le territoire. Vous en avez sûrement entendu parler un peu, les seigneuries, tout ça. Et elles sont venues occuper le territoire de Charlebourg. Donc, à Charlebourg, il y avait vraiment juste des champs, il y avait des vaches, il y avait des fermes, il y avait du bois. Donc, il y avait beaucoup moins de maisons qu'avant. Et ils sont venus coloniser la terre ici. Et les terres étaient en forme de pointe de tarte, qui était vraiment tout autour du carré. Et donc, toutes les maisons étaient autour du carré pour se protéger, pour avoir une sorte de village, donc avec l'église au centre, parce que c'était le centre de la vie à l'époque.
Oui. Mais aussi, là, toutes les maisons très carrées sont pas mal vieilles.
Exactement. On parle du très carré. Il est vraiment ici, et le moulin en fait partie. Donc, c'est un peu plus grand que juste le carré ici. Et donc, ce carré-là est important historiquement, parce que même le gouvernement a décidé de dire « Ce quartier-là est spécial, on va le protéger. » Donc, ce quartier-là, depuis 1965, est protégé. Donc, si vous vous promenez dans le très carré, vous allez voir, il n'y a même pas de poteau électrique, parce qu'on veut recréer un peu l'ambiance comme il y avait autrefois. Donc, vous remarquerez ça la prochaine fois, c'est de voir les poteaux électriques, il n'y en a pas.
Et on parle du très carré, on a vu qu'il était carré, qu'il était spécial aussi, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'unique, le très carré, vous pensez? Oui?
Comme tu le disais tantôt, il est plus vieux, puis on essaye, puis il est protégé.
Oui, tout à fait. Oui, on regarde.
Une vieille maison.
Une vieille maison, oui, on revient sur les vieilles maisons. Donc ça, c'est quelque chose d'unique, on n'en voit pas partout, des vieilles maisons. Oui.
Et l'église aussi est très vieille.
L'église est très vieille, elle est assez unique ici, donc on n'en voit pas partout des églises comme ça.
Il y a beaucoup d'événements spéciaux, puis il y a une bibliothèque proche.
Oui, tout à fait.
Il y a souvent des décorations proches, comme nous, une fois on est parti à l'église, on avait tué des roches, puis on les avait mis dans le carré.
Oui, c'est avec moi ce projet-là.
Ah!
Oui.
Mais il y a le parc, mais c'est comme un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le parc.
Le parc de la commune?
Ouais, c'est avec la forêt, non.
Oui, le parc de la Commune, c'est un élément très ancien. Savez-vous pourquoi ça s'appelle le parc de la Commune?
Non. Parce que c'est là qu'il y a les personnes qui se rejoignent.
Oui, les personnes se rejoignaient là, mais à l'époque, donc on revient vraiment en Nouvelle-France, c'était une terre commune. Donc, on appelle ça la terre communale, et les gens venaient apporter leurs vaches, leurs bœufs pour venir les faire brouter, en fait, dans cette terre qui appartenait à tout le monde. Donc, c'était une terre commune, et on a décidé de garder le nom jusqu'à aujourd'hui. Et le parc, aujourd'hui, il appartient un peu à tout le monde, donc il a gardé un peu le même esprit qu'aujourd'hui. Là, on parle d'histoire. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi l'histoire et pourquoi on en parle à l'école? Pourquoi c'est important l'histoire? Oui?
On se commémorait les affaires qui avaient avant.
Oui, on commémore les choses qui se sont passées, oui.
Mais pour un peu savoir les origines.
Oui, savoir les origines, bien sûr. Oui?
Mais parce que le tricorier, ça a une grande histoire. Puis, c'est ça.
C'est proche de nous, fait que c'est important de savoir qu'est-ce qui est proche de nous. Oui?
Pour, mettons, transférer des traditions, des fois, autre chose comme ça.
Transférer les traditions, oui, tout à fait.
Puis encore aujourd'hui, on parle de la commune, il y a beaucoup de gens qui se réunissent comme pour des spectacles.
Fait que c'est encore un lieu très vivant, comme à l'époque.
Je vais vous faire un petit quiz. Patrimoine! Est-ce que le moulin des Jésuites pourrait faire partie du patrimoine?
Oui!
Oui! Pourquoi? Oui.
Parce qu'il y a des choses vieilles, puis qui transmettent des choses.
Tout à fait, oui.
C'est aussi un musée.
C'est aussi un musée, tout à fait.
C'est un peu un musée, puis il y a comme encore toutes les vieilles choses dedans. C'est pas des comme c'est rénové, mais ils ont gardé quand même des choses originales.
Exactement, oui.
Ils nous montrent comment ils faisaient avant pour s'oublier, puis comme pour construire leur truc.
Exactement, donc c'est un lieu, donc on parle de patrimoine bâti, donc il y a plusieurs fonctions dans le musée. Donc le bâtiment s'est transféré de génération en génération, donc depuis pas loin de 300 ans, ce bâtiment est là. Donc, il fait partie de l'histoire, donc il fait partie du patrimoine parce qu'il s'est rendu jusqu'à nous. Donc, le patrimoine, il y a une notion de se rendre jusqu'à nous, donc que ça soit encore là aujourd'hui. Et il y a une notion aussi qu'on transfère les connaissances à partir du musée, donc les vieilles connaissances jusqu'à aujourd'hui. L'église! Est-ce que l'église de Charlebourg ferait partie du patrimoine?
Oui.
Oui.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment dans la même idée. On parle du patrimoine bâti, donc, qui reste jusqu'à aujourd'hui. Chocolat favori?
Non!
Peut-être pas le chocolat favori, mais le bâtiment?
Oui!
Le bâtiment, oui, ça fait des centaines et des centaines d'années que ce bâtiment est là. Donc, on peut voir ça dure jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'architecture est différente, donc on ne va pas construire les maisons de la même façon qu'à l'époque. Oui?
Aussi qu'on marche à l'intérieur, des fois, ça fait des petits grincements. Alors, ça se fait que c'est un peu c'est vieux.
Oui, en effet. Oui?
Aussi, comme des tours qu'on construit plus ces temps-ci dans nos maisons, on ne voit pas des genres de tours sur les grands bâtiments.
Exactement. Donc, on ne construit plus de la même façon. Puis, avant, on construisait des choses qui n'étaient peut-être pas utiles, mais qui étaient juste jolies. Puis, ça c'est pas transmis jusqu'à nous aujourd'hui en termes de construction. Oui, jusqu'au bout.
Je vois que sur le chocolat favori, on dirait qu'il y a un balcon en hauteur.
Oui.
Maintenant, on ne fait plus ça.
On fait plus ça.
Ben, il y en a genre.
Certaines maisons pourraient en avoir, mais certainement pas de cette façon-là.
Ouais.
Parlez-moi de vieux métiers qui pensaient faire partie du patrimoine immatériel.
Boulanger, les fermiers.
Les fermiers.
Les chasseurs.
Les bûchers.
Les bûchers, les bûcherons.
Les chasseurs.
Oui.
Les médecins.
Les médecins, effectivement.
Les professeurs.
Professeurs.
Les personnes qui travaillent dans les églises.
Il
y en a quand même beaucoup.
Les prêtres, constructeurs. Constructeurs, oui. Donc là-dedans, on peut parler de maçons, de forgerons, exactement, charpentiers.
Pêcheurs,
oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de métiers qui sont, qu'on pourrait dire, qui font partie du patrimoine, parce qu'ils étaient là avant, puis ils sont là encore aujourd'hui. Donc des vieux métiers qui ont complètement disparu. C'est un peu plus difficile de parler de patrimoine immatériel parce que ça ne dure pas jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous présenter
Ferblantier. Qu'est-ce qu'un ferblantier? Que pensez-vous qu'un ferblantier fait?
Oui.
Qui fait fondre le fer.
On parle de fer, fondre du fer, d'accord. Oui.
Ben, un peu la même chose que jusqu'à faire du fer, comme un forgeron, mais avec du fer en place que du métal.
OK. Un forgeron peut travailler avec du fer aussi, par contre. Oui.
Faire du fer.
Super, on reste dans l'idée du fer, oui?
Des formes avec le fer.
Il fait des formes avec le fer, d'accord, oui?
Il transforme le fer en blanc.
Ok, oui.
Il blanchit le fer.
D'accord, oui?
Il sculpte du bois.
On a plein de réponses. Moi, il y a quelques mois, je ne savais même pas c'était quoi un fer blanchi. Fait que j'étais dans la même situation que vous, j'avais aucune idée, à part le mot fer. Travailler avec le fer pour le transformer, c'est beaucoup le forgeron qui va faire ça. On parle de ferronnerie, puis on parle de vraiment faire des bouts de métal avec des beaux dessins dedans. Un fer blanchi, c'est totalement autre chose, et j'aimerais qu'on écoute M. Roch Drouin, qui va nous parler de son métier.
Bon, moi je m'appelle Roch Drouin, j'étais fer blanchi couvreur. J'ai commencé à mon compte en 84, puis j'ai fermé la compagnie en 2018. C'est un métier qui était connu il y a 50 ans. Le fer blanchi, c'est quelqu'un qui fait des toitures en métal. Puis comme on va voir tantôt, il y a trois sortes, bien, des toitures de style qu'on appelle, là, parce que moi, je faisais pas de toiture sur des ranges, tout, mais moi, je faisais pas ça. Moi, j'ai commencé j'ai travaillé pour mon père et ses frères. Comme on dit, ils faisaient de tout. Là, plomberie, chauffage, électricité, couverture, brûleur à l'huile, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis mon père, puis ça, moi, j'ai commencé à travailler en 70-71, puis mon père a pris sa retraite en 83. Puis là, moi, la plomberie, puis l'électricité, j'aimais moins ça, j'aimais mieux être dehors. Fait que là, j'ai parti à mon compte. En toiture, au début, on faisait de tout. On faisait des toitures en asphalte, là, avec la bouilleuse, puis chauffer le goudron, mais j'aimais moins ça. Fait que j'ai fait ça dans 2-3 ans, puis après ça, j'ai vendu toutes ces affaires-là, puis j'ai dit, je fais juste de tout. C'est plus propre, c'est plus fun. Fait que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais tout seul. C'est familial, hein. J'avais 4 cousins qui travaillaient avec moi, et mes 4 oncles. Puis c'était moi, j'ai un de mes cousins qui m'a montré mon métier, là, Denis Letarte. Lui, il était déjà là depuis une quinzaine d'années, puis lui, il faisait plus de la toiture. Fait que c'était avec lui que j'ai travaillé, puis c'était avec lui que j'ai parti à mon compte. J'ai appris avec lui, quand on travaillait pour mon père, on était employé, mais quand on a parti à notre compte, j'étais capable de travailler tout seul, là. Il m'a montré souder, puis souder, c'était un art, souder, là. Et c'est lui qui m'a montré souder, comment arranger nos fers, étamer nos fers, puis bon, ainsi de suite. Moi, j'ai appris en travaillant, sur le tas. Moi, j'étais un entrepreneur, un fer blanchi. Je travaillais beaucoup pour les entrepreneurs généraux, qui les autres pognaient un contrat, ils faisaient tout ce qui s'appelle une miserie. Moi, je suis chapeau au bois, là. Fait que, quand les autres, on prenait une couverture, mettons, dans. Je suis pouvoir Champlain, une couverture qui avait 80, 90 ans en tôle. Les autres, ils enlevaient la vieille tôle, mettaient ça dans un conteneur. S'il y avait du bois à changer, ils changeaient le bois, posaient du venir. Après ça, ils posaient le papier avant toi, autocollant pour pas qu'il rentre d'eau dedans. Puis moi, après ça, je prenais mes mesures, puis je fabriquais ma tôle, puis je la posais. Il fallait que tu respectes, si les Ursulines voulaient avoir une couverture en canadienne, c'est en canadienne, les toitures aux Ursulines dans le Vieux-Québec, là. Mais c'est pas fait juste des réparations, je les ai faites en deux. Parce que je les ai faites pour mon père, puis quand j'ai parti à mon compte, ils m'ont gardé. Les autres, on parle de vieilles bâtisses, les plus vieilles bâtisses au Québec. Oh oui, j'en ai fait plusieurs. Juste si après Corée, je vais en avoir 7-8 de fait. Celle qui était taillée sur M. Fillon, j'ai pas fait les mansardes, j'ai fait la toiture du haut, j'ai fait Mme Bédard. Après ça, j'ai fait la mienne, fait mon garage. J'ai fait, je n'ai fait une ici, je n'ai fait deux dans le Précoré. Ouest, mais en bas de Louis XIV. Ah, je m'y fais plusieurs. Oh non, je manquais pas de travail. J'ai jamais manqué de travail, comme moi dit, mais j'en faisais pas l'hiver. J'aurais peut-être obligé d'en faire si j'avais pas mon contrat de déneigement, mais l'hiver, c'est non. L'hiver, c'est parce que l'hiver, là, quand tu étais 3, 4, 5 jours sans pouvoir y aller à cause qu'il a neigé, quand tu y retournes, bon, là, des fois, c'est une journée, deux jours, un qui a déneigé, pour que ça soit asséché, là, tu sais. Tu peux pas poser ça dans l'eau, là. Puis non, alors, puis c'est trop dangereux aussi, tu sais. Ces colombages en haut à 70 pieds, là, dans la neige, puis là, comment ça, les gens, 2 heures d'après-midi, faut que t'arrêtes, faut que tu t'épanches. Non, c'était bien trop. C'est trop dispendieux aussi, là. Tu travailles dans le vide, tu sais. Nous autres, il faut que ça soit fait comme ça. Tu peux pas. Y a pas 56 moyens de faire ça, là. Faut que ça soit fait de même. Non, il y a pas eu de changement. Puis ça se fait comme ça se faisait il y a 50, 60 ans. Là. On peut dire que c'est de l'artisanat, toiture de métal. Là. Ça, c'est les outils que ça prend à peu près pour faire un toit. 5-4 clous, un galon mesuré, marteau, ciseaux, la pierre de lame, un punchette loup, puis une maillette. Le fer, il est chauffé sur ça. On met ça sur les échafaudages, les madriers. Le couteau, c'est pour couper à l'eau, naturellement. Et pendant 35 ans, là, je ne sais pas combien de fois j'ai la pédale utilisée, là. Mais à ce temps, c'est tout, à ce temps, les machines, c'est tout électronique, puis c'est un piton, puis ça descend tout seul. Avant ça, au début, là, quand j'ai commencé avec mon cousin, j'avais pas ça, là, j'avais pas de couteau. Je coupais tout ça, on coupait tout ça au ciseau, là. Fait que, à un moment donné, on s'est acheté un couteau. Ça, c'est l'agrafeuse, là. Quand on fait cette petite agrafe-là, là, ben, tu rentres ça ici, puis tu lèves, puis ça fait ton agrafe. Au lieu de faire ça à la main, là, ça va pas mal plus vite. C'est la plieuse qui était à mon père. Puis ils l'ont acheté d'un ferblantier qui avait pris sa retraite. Lui. C'est une plieuse que ça, que ça fait 100 ans, là. C'est du Brown Boy. Ça doit peser 700-800 livres. C'est pour ça qu'il y a des madriers, là. Si on a affaire, on ne transporte pas ça à ces chantiers-là. C'est à peu près ça que ça prend pour faire une couverture. Il y a des styles de maison qui ne peuvent pas recevoir de toiture de métal. C'est pour ça qu'elle est en bois en barre. Tu as des maisons de 500-600 000, les toitures sont en barre d'eau. Puis c'est très, très, très beau. Sauf que c'est aussi une toiture de Bordeaux, il faut dire que c'est 20-25 ans. Tandis que toiture de métal, à la canadienne, bien, café, c'est des couvertures qui pètent. On parle de 50-60 ans, mais ça peut être 75-80 ans. Si t'as pas affaire à monter dessus, puis à cogner pour casser la glace, ou puis qu'il n'y a pas trop de lucarne, puis de noue, bon, c'est normalement, moi, les miennes ici ont 32 ans, puis c'est comme je l'ai fait hier, là. Ça bougera pas non plus, ils vont m'enterrer, ça c'est sûr. Fait qu'il y a trois sortes de toitures de style. Il y a la baillette capée, à la baillette soudée, puis à la canadienne. Quand on parle de toiture de style canadienne, il y a un monde à 45 degrés, là. Ça fait des petites feuilles de main. Fait qu'on met la tôle comme ça. On écrase la graffe avec une maillette. On met un clou galvanisé à chaud, 5 clous parfaits. On essaie de faire la graffe à peu près dans le centre du morceau. Fait que quand c'est reviré, ben, t'as la graine de même, t'as marqué 4 pouces, tu montes. Puis l'autre est pareil, toujours pareil. Ça, c'est la canadienne. Alors, moi, pour moi, c'est sûr que c'est la plus belle toiture, c'est pour ça que j'ai fait de même les miennes. Après ça, si on prend la baillette capée, il y a une baillette de bois toutes les 26 pouces. Ça, c'est le cap qu'on met. On prend une pierre de clame, comme ça, on écrase la graisse. Puis après ça, avec une baillette de bois, on la rabat sur le côté. Ça fait une très belle couverture, mais ça, il faut qu'il y ait 4 pouces de pente au pied et plus. S'il n'y a pas 4 pouces de pouces au pied, là, il faut s'en aller. D'ailleurs, tu dis, contraire à ça, c'est plié, pareil. La tôle ici, elle a 3 quarts, l'autre a 1 pouce. Fait qu'elle embarque une par-dessus l'autre. Là, on prend le même clou qu'on pose à toutes les pouces et demi. Puis après ça, on prend fer à souder. On met une acide, sa baillette. On l'étame. Fait qu'en étamant, elle éteint, elle rentre entre les deux tôles. Puis après ça, on appelle ça barre à soudure. C'est pour ça que c'est très, très long. C'est pour ça que c'est la plus dispendieuse. Puis c'est toutes des toitures, comme on dit, qui peuvent durer 50, 60, 70, 80 ans. C'est des toitures de style. Les sœurs ici, là, les mansardes, les murs, sont en canadienne. Puis le toit sur le dessus est à baillette. Deux styles dans la même bâtisse. C'est ça qu'on appelle un solin, là, qui va dans le bas du toit. Puis notre tôle va s'accrocher après ça pour partir en bas. Fait que si on veut faire un sonnet comme ça, c'est avec ça qu'on fait ça. Fait qu'on fait... On fait notre pli double en bas, là, pour que ça réglisse la tôle. On écrase notre agrafe. Après ça, on va lui donner juste un petit conseil pour la raidir. C'est ça qui fait que la tôle s'en va pas en zigzaillant. Fait que, on y fait un petit pli comme ça. On revire. Là, c'est là qu'on fait notre agrafe du bas. Puis notre tôle de toiture va venir s'accrocher. L'écrase de pli. Puis que ça, c'est en bas du toit. La tôle du toit part, puis elle s'accroche après ça. Fait qu'elle ne sait plus pas rentrer une goutte d'eau. C'est ce qu'on appelle un solin. Mais c'est toujours des solins de même pour une toiture en métal. Ben, on parle de tôle, soit de la tôle galvanisée, de la cuivre, très dispendieux. Puis à ce temps, ben, il y a la tôle émaillée, la tôle de couleur. Ben voilà. nombreuses couleurs, du brun, du noir, du gris, du bleu. Bon. C'est toutes des affaires à mes parents, ça là. À part le couteau qu'on avait à faire, bon, parce que j'ai dit, moi, je garde ça pour peut-être que mon fils, j'ai un autre fils, mais lui, il est pompier, là. Il est pas dans le métal. Mais s'il veut l'avoir plus tard, il l'aura, s'il veut pas. C'est des affaires qui se vendent très bien. J'adore ça. J'aimais ça travailler dehors. Puis c'est un métier que je me débrouillais très bien avec ça. J'étais capable de faire un petit peu de tout, là. Souder, peu importe le style de toiture. C'est un métier qui est dur. Parce que tu travailles toujours dans hauteur. C'est beaucoup d'échafaudage. Puis t'es jamais sur le douette. C'est toujours en pente. Puis j'aimais ça. Quand t'aimes de quoi, là? C'est un très beau métier. Pas dans bonne forme. Tu vas peut-être former des nouveaux formulantiers sans le savoir.
Donc, on a appris un peu plus avec M. Drouin. C'est quoi un ferblantier? Oui.
C'est des toiles faites en métal.
C'est pas tout à fait des toiles faites en métal.
Non, c'est des toiles. Je me suis trompée.
C'est des toitures. Des toiles, exactement.
Oui. Comme il a dit, les toitures, ça dure longtemps.
Ça dure longtemps? Combien de temps?
Les toitures,
il parlait entre 50 et 80 ans. C'est assez long. Donc, des autres types de toitures. Souvent, on parle de bardeaux de l'asphalte. Donc, c'est comme de l'asphalte qui est sur les toitures. On parle plus de 20-25 ans. Là, 80 ans, c'est très très long, c'est le temps d'une vie. Il habite dans le Trécarré, M. Drouin.
Il habite encore là?
Oui, il habite encore là. Oui.
Il doit avoir une machine spéciale, on la voit, pour plier.
Tout à fait, donc.
Le métal.
Il y a plusieurs outils.
Oui. Il a dit à chaque 12 pouces, il y avait comme du bois.
Oui. Oui.
Il y a plusieurs styles.
Plusieurs styles, exactement. Oui.
J'ai entendu qu'il a dit. Toutes les choses qu'il y avait pas mal, c'était de ses parents.
Exactement, donc les outils, c'est plusieurs outils, ça vient.
Je transmets de génération en génération.
Donc, effectivement, on transmet de génération en génération.
Patrimoine.
Il travaille à quel endroit, ce monsieur-là?
Dans sa maison.
Dans sa maison, mais aussi.
Oui? Au Trécarré.
Dans le Trécarré, il travaille dans le Trécarré, il travaille aussi à l'extérieur d'un Québec, oui?
Dans son garage.
Dans son garage, il travaille aussi beaucoup dehors.
Ouais.
Il travaille en hauteur.
Il faut être en forme,
effectivement. Mais M. Drouin a travaillé 34 ans pour faire son entreprise de toiture, donc de 84 jusqu'à 2018. Oui, il a eu ses outils de ses parents, mais de qui il a appris son métier? Oui.
De ses cousins.
De son cousin, effectivement.
Cousin, cousine.
De ses parents aussi. Donc, son père, il travaillait. Et il a parlé de ses 4 oncles et ses 4 cousins aussi. Donc, est-ce qu'on parle d'une transmission de génération en génération?
Oui.
Oui, on parle de quelque chose de familial. Il a pas été à l'école pour ça, je pense pas, hein?
Non,
il a pas été à l'école. Il a vraiment appris, vraiment par lui-même et à l'aide de sa famille. Donc, plusieurs styles de toiture. Il a parlé de 3 styles. Est-ce qu'on s'en souvient? Oui, en arrière?
Style canadien.
Canadienne, oui. C'est en pente de 45 degrés. C'est des petits losanges.
Mais comme tout le monde, presque à Québec.
À Québec, il y en a effectivement beaucoup parce que c'est
québécois.
Effectivement. C'est un style particulier ici pour que la neige glisse bien, en fait, un peu partout dans le monde. On n'en verra pas nécessairement ces toitures-là. Donc, c'est vraiment très, très unique ici. C'est pour ça aussi que le Trécarré est unique. Il y en a beaucoup de belles toitures comme ça qui sont anciennes ici.
Puis il y en a sûrement fait pas.
Il y en a fait 7-8 qui est dit dans le Trécarré, effectivement. Et les deux autres styles de toiture, c'est baguette. Donc, effectivement, c'est les bouts de bois qu'ils mettaient à chaque 24 pouces, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, ça fait un autre style de toiture. J'aimerais vous poser une dernière question avant la fin.
J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Oui, Maria.
Les métiers,
qu'il y a plus de métiers qu'on pense.
Tout à fait, c'est vrai. Oui.
J'ai appris ça veut dire quoi le cercle des fermières. Puis c'est quoi le métier, comment ils font de construire les toits en métal.
Oui, je pense que tout le monde a appris c'est quoi un ferblantier.
Oui.
Oui, en arrière aussi.
J'ai pas mal tout appris.
Oui, beaucoup de choses nouvelles.
Oui, beaucoup de...
Parfait.
On peut la remercier.
Merci.
Merci.
On peut l'arrêter.
Vous venez d'écouter le 4e épisode de la saison 2 du balado du Moulin des Jésuites. Entre nous, l'histoire du Trécarré. Restez à l'écoute pour de prochains épisodes. À bientôt!